Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formule de podcast La Boulangerie Graphique. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau podcast puisque les deux derniers épisodes étaient des hors-série que j'ai fait avec Blandine.
Bonjour.
Et comme vous avez bien aimé Blandine, Blandine est là avec moi aujourd'hui.
Salut, salut.
Salut Timmy. Du coup, non, on est en train d'essayer de mettre en place un podcast qui va sortir plus régulièrement et avec des chroniques à l'intérieur. On va pouvoir trouver des conseils, des freelances, des mini-jeux, des ressources, de la culture graphique, un peu de pas mal de choses qui touchent à notre métier de graphiste freelance.
Oui.
Et du coup, Blandine va m'accompagner là-dedans pour aussi faire une petite chronique juridique. Puis on va discuter d'un peu de tout ça.
Ouais, débattre et rentrer un peu dans le fond du truc avec nos expériences à nous aussi.
Ouais, exactement. Puis toi, t'aimes bien débattre, t'aimes bien parler.
Oui, tout à fait.
Bon, du coup, nous voilà dans cette nouvelle formule de podcast où on va avoir plusieurs chroniques dont on va parler. Et donc, la première chronique que l'on va lancer, c'est les conseils de freelancing. Alors, il faut savoir que comme je suis quelqu'un de très curieux, je m'intéresse à plein de choses et je lis des articles sur Medium. Je ne sais pas si certains d'entre vous lisent des articles sur Medium, ou si même toi, Blandine, tu lis des articles sur Medium, peut-être ?
J'avoue que non.
Non, pas trop.
Non, du tout.
Bah moi, je lis des articles de temps en temps, mais après, c'est vrai qu'il y a quand même souvent des articles qui sont sur la productivité, qui sont sur les choses comme ça d'entrepreneurs. Un peu moins d'articles sur le graphisme, on va dire, pur et dur. Mais là, du coup, pour les conseils freelancing, j'ai lu deux articles super intéressants, dont un article qui est des conseils contre la procrastination, on va dire, entre guillemets, et 8 conseils de productivité. Donc, c'est des trucs plus basés sur notre quotidien, qui vont nous aider dans notre quotidien de freelance, en fait.
Et du coup, Medium, c'est quoi ? C'est lié à LinkedIn, c'est ça ?
Pas du tout. Non, Medium, c'est une plateforme indépendante d'articles.
Ok.
Et tout le monde peut écrire dessus, un peu comme si tu faisais du blogging, tu étais blogueur, mais au lieu d'avoir ton blog à toi personnellement, tu vas écrire sur une plateforme.
Ok, d'accord, parce que je connaissais pas du tout, tu vois.
Et en fait, ce qui est bien sur Medium, bah, c'est cool parce qu'on fait une petite présentation de Medium, mais ce qui est bien sur Medium, c'est que tu as toutes les catégories. Et tu as des grandes catégories, donc par exemple, tu as Medium France, tu as une page Medium France avec tous les articles français. Après, il y a quand même c'est une petite communauté française. Après, il y a quand même beaucoup d'articles en anglais et américains et tout ça. Et donc après, tu as plein de sujets, que ce soit les sciences, l'art. Tu as énormément
d'articles
sur la productivité, le développement personnel, les relations. Tu as la psychologie, la philosophie, tu as plein de trucs.
Ah bah, c'est intéressant.
Moi, j'aime beaucoup. Du coup, sur Medium, j'ai lu donc un premier article de conseil contre la procrastination. En fait, l'article s'intitule « Vous n'avez pas besoin de plus de motivation, vous avez besoin d'un système ». Donc, je trouvais je trouvais le titre d'article super intéressant parce qu'en fait, du coup, le gars détaille que il a tendance, comme tout le monde, à procrastiner, à se dire « Ok, c'est pas grave si je vais pas au sport, c'est pas grave si je me réveille pas au premier réveil qui sonne le matin, c'est pas grave si j'ai pas fini de cocher toutes mes caisses de to-do list à la fin de la journée. »
Ah oui, la fameuse.
c'est tout ça. Et du coup, il parle de tout ça et qu'en fait, il en est venu à se mettre en place en fait, un système. Je pense qu'on a tous plus ou moins un système, on a tous des petites habitudes au quotidien, etc., qu'on se met. Et en fait, l'idée, donc, à travers cet article, il essaye de lancer l'idée de dire que, bah, justement, il faut se mettre en place des choses qui nous conviennent à nous personnellement pour se créer une sorte de système où, dans ce système-là, on va pouvoir être productif. On va pouvoir... Ok, il y a des fois, on va être un peu en procrastination, on va pouvoir se divertir, se détendre, mais il y a d'autres fois où, grâce à ce système-là, on va être en forme, on va être mentalement dans le truc pour être productif et pour, grosso modo, bosser
faire ce qu'on
et
a à faire,
accomplir
quoi.
Ses tâches, etc., et à accomplir ses objectifs. Exactement.
Ok.
Et du coup, il note pas mal de petits trucs intéressants où il dit que, bah, comme nous, enfin, je pense comme tout le monde, il a mis en place des petites habitudes au quotidien, comme que ce soit du sport ou comme toi, je sais que tu fais de la méditation aussi.
Ouais, tout à fait.
Des choses comme ça qui lui permettent d'avancer et de...
De se recentrer, du
coup. Ouais, exactement. Bah, y a une notion qui est intéressante, qui dit notamment, et que moi, je sais que je fais énormément depuis déjà plusieurs années, c'est d'éviter d'avoir un surplus d'informations.
Ah ouais.
pour laisser un peu d'espace dans sa tête, tu vois, et pouvoir avoir de la réflexion, pouvoir s'adonner à son travail, mais éviter d'avoir trop de surplus d'informations.
Mais en gros, c'est une routine quotidienne, quoi, avec des étapes, ouais, et du coup, ça permet d'économiser de l'énergie, quoi.
Exactement. Bah, en fait, du coup, il conclut l'article, je trouvais ça intéressant, c'est qu'il dit, en gros, que tout ce qu'il a mis en place pour créer son système à lui, ça n'a pas de lien direct avec son travail. Ça n'a pas de lien vraiment purement et directement avec son boulot. Mais ça donne, ça lui donne, en fait, de l'espace dans sa tête et l'esprit libre, un peu plus libre, pour accomplir ses objectifs à avancer.
Moi, je pense un peu pareil que lui. Je pense qu'une routine qui est bien définie quand tu te connais, donc c'est-à-dire que même au niveau de ton rythme, tu vois, biologique, c'est-à-dire que tu vas faire des choses à certains moments de la journée parce que tu sais que tu es comme ça, tu vois, c'est bon. Après, je te dirais que en fonction des années, tu changes, parce que avant, j'arrivais pas à me lever tôt, ou j'aimais pas me lever tôt par exemple, et maintenant j'adore ça. Alors ça veut pas dire que je le fais tout le temps, mais là, il y a quelques semaines, en gros, je me levais genre à 6h50, 7h, et j'avais la sensation de pouvoir prendre vachement de temps pour moi.
C'est
avant
très tôt
de...
pour un freelance.
Oui, voilà. Mais tu vois, j'avais le temps de me mettre tranquille dans le boulot, donc je me faisais mes petites vidéos YouTube. Ouais, parce qu'il faut savoir que moi, j'adore regarder YouTube le matin.
Mais moi, je regarde YouTube tout le temps à longueur de journée.
Ouais, moi aussi, mais là, disons que c'est très spécifique, tu vois, je vais regarder genre des trucs. Petite rénovation de baraque, tu vois, do it yourself.
Non, mais trop, il faut, hein, je pense. Après,
du coup, ça me...
Tu vois, mais c'est trop bien.
Ouais, ça me détend de fou, tu vois. Je fais mon café, je me prends un bon petit-déj et tout. La douche, machin. Et après, t'es clean avant de commencer. Tu te dis, ouais, j'avais presque trop de temps, dis donc, avant de me mettre au boulot. Alors que c'est vrai que quand je me lève à 8h30 et que j'attaque le boulot à 9h15... Si tu veux, j'ai vraiment la sensation de courir après le temps. Et je suis déjà dans un truc un peu de rush avant même de me mettre au taf. Et souvent, c'est pas bien. Enfin, je commence mal ma journée.
Tu peux avoir fait tout ce que tu avais à faire, toi personnellement, et qu'après, dans le taf, ça te travaille, ou tu te dis.
Ouais, c'est ça.
C'est à la fois dans ton boulot, à la fois, tu te dis, putain, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire personnellement.
Ben, j'ai pas fait ma petite routine, tu vois, je me suis pas posée, genre, je me suis pas posée, alors après, ça dépend des jours, il y a des jours où je me lève tard, parce que bah, je me suis couchée tard aussi, il y a ça
qui joue. Ouais, après, il y a les aléas du quotidien.
Ouais, voilà, du direct, hein. Mais disons que, non, mais si je me couche genre à 23h, je sais que c'est possible de me lever à 7h, tu vois.
Ouais.
Donc, alors que si je me couche à minuit, minuit et demi, ça risque d'être un axe.
Ah, mais ça, on est d'accord, hein, passer 30 ans, c'est tout. Le sommeil, c'est important.
C'est la vie, donc voilà.
Non, mais pareil, alors... moi, je pense que c'est pas... En fait, moi, c'est un peu pareil dans le sens où j'ai l'impression que quand... par exemple, c'est pareil, je regarde énormément YouTube, pas mal de vidéos sur YouTube où j'ai des articles, mais je sais que si, par exemple, j'ai des vidéos ou des articles ou des trucs qui me titille, ou je sais que, enfin, je les ai vus et je sais qu'il faut que je les lise, il faut que je les regarde parce que ça m'intéresse. Et si je l'ai pas fait avant de bosser, en fait, je vais être tenté de le faire en plein milieu de mon boulot, finalement.
Ah oui.
Et du coup, en fait, après, derrière, tu perds en productivité parce que si tu passes d'un côté de ton boulot, puis après, tu commences à regarder une vidéo YouTube, puis après, tu repasses sur ton, bref, après, c'est le cercle vicieux et ça te casse ta productivité directement, alors que quand tu cadres un peu plus les choses, comme tu dis, tu vas avoir peut-être ton temps le matin ou ton temps le soir ou entre midi et deux ou n'importe, où tu vas te caler tes petits trucs, tes petites routines personnelles du quotidien et tout ça. Mais après, ça te laisse plus de temps sur ton boulot, dans tes heures de boulot finalement.
Bah ouais, grave. Après, il y a un autre truc, moi je sais j'ai essayé d'étudier un peu les origines de ma procrastination. Parce que au-delà du fait d'avoir une routine et tout machin, pourquoi je procrastine ?
Ouais.
Tu vois, c'est quand même assez, c'est intéressant, quoi.
L'introspection.
l'origine du mal. Et, et du coup, souvent, c'est parce qu'en gros, soit je me mets trop de pression par rapport à une tâche, ouais. Et que du coup, en fait, c'est reculer un peu pour mieux sauter, mais à un moment donné, je suis obligée de m'y mettre. Donc,
ouais, ça, je pense qu'on l'a tous vécu. Ça, c'est comme tu es voilà. Étudiante, tu as un partiel, bon, bah, tu révises la veille parce que tu n'as plus le choix. Ouais. C'est la même
oui. chose. Exact. Donc ouais, il y a déjà ça. Souvent, la procrastination. Moi, j'ai noté que c'était de la peur de se mettre finalement à la tâche pour une raison X ou Y. Hein.
Ouais.
C'est très personnel. Est-ce que voilà, t'as peur de pas assurer sur la créa ou t'as peur de pas avoir d'idées. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui peuvent être à l'origine de ça, un syndrome de l'imposteur.
Ah bah, je fais pas du tout de clin d'œil. On va revenir là-dessus. Hein. C'est obligé. Bien sûr qu'on y revient là-dessus. Ça te fait un syndrome de l'imposteur parce que t'as des freins dans ta tête qui te
ouais.
disent non, n'y va pas.
Non, c'est nul. Donc t'as ça. T'as aussi la fatigue, hein, souvent la procrastination quand même. Mais là, ça fait partie finalement de la routine. Parce que si tu prends soin de ton corps, si tu t'es
content,
tu ne sais pas trop être fatigué.
Pas tout le monde, on a tous des routines, on a tous sa routine aussi. Puis on sait que globalement, tu fais un peu de sport, tu lis
c'est
un
ça.
Peu, tu regardes pas trop d'écran, toutes ces choses-là,
ouais.
t'essaies d'avoir une alimentation un peu saine et équilibrée, ça aide
grave.
Quand même. C'est un peu
beaucoup.
Une base pour tout le monde quand même, même si on est tous différents.
Ah ouais, c'est clair. Et puis alors le dernier truc que j'aime, moi, c'est le souci de concentration. Je sais pas si c'est un truc qu'il faut que
personnel
je diagnostique ou pas.
Ou
mais ouais, j'ai un énorme problème de concentration. Et ce qui fait que dès qu'il y a un bruit autour de moi ou quelque chose, en fait, par exemple, la malchance d'être attirée par ce bruit. donc, du coup, j'ai mis en place des process, en gros, pour pouvoir masquer les bruits. Voilà. Donc, soit j'écoute des bruits blancs.
Je crois qu'on va appeler ce podcast la psychologie de Blandine.
Non, mais c'est super intéressant pour la concentration. Et du coup, tu as le bruit blanc qui est vachement bien parce que du coup, ça te permet de masquer les bruits autour et d'être vraiment focus sur ta tâche et du coup, de t'y mettre. Il y a l'ASMR aussi, donc.
Ah, tu disais que tu faisais un peu d'ASMR. Enfin,
en ce moment, c'est ma drogue, en ce moment.
Il y a des phases aussi, c'est vrai qu'on est. Enfin, je trouve que c'est vrai qu'on a quand même pas mal de phases. Autant on a des. Chacun se crée ses petites habitudes, ses petites routines du quotidien, mais je trouve qu'on a des phases aussi. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais...
Ouais.
Mais des fois, on va se prendre, comme tu dis, on va se lever un peu plus tôt, on va se prendre un petit déj, on va faire un machin, alors que d'autres fois, complètement l'inverse, quoi.
Ouais, grave. Et puis, il suffit que tu sois un peu excessif ou obsessionnel dans ta façon de te comporter. Et là, tu vas manger un truc pendant, tu sais, de manière assez intense pendant un moment.
Ouais, après,
et puis après,
tu satures.
Voilà, c'est ça. Alors après, parfois, il y a un vrai coup de cœur et du coup, sur la durée, ça continue. C'est généralement ça, c'est ce qui fait que ça devient une routine. Un peu comme la médite, tu vois, ou des trucs comme ça.
Oui, il y a plein. Enfin, je trouve, il y a quand même pas mal aussi de vidéos sur le sujet sur YouTube. Mais paraît-il qu'il faut à peu près, c'est combien? C'est 30 ou 60 jours pour installer une nouvelle habitude dans son quotidien?
Ça doit être 21 jours, normalement, j'avais vu. Mais...
Voilà. Ouais,
la meuf.
21,5 jours.
J'avais vu 21 jours, il me semble.
Non, mais voilà, il y a plusieurs... Après, ça s'accorde à dire que c'est plus ou moins 30 jours.
Ouais, mais de toute façon, c'est chimique, je crois. En fait, c'est la répétition.
Ouais, c'est la répétition.
Du truc. Et donc, du coup, ASMR, ouais. Et c'est des bruits, en fait, en gros, qui enlèvent les tensions, les trucs comme ça, et qui te permettent, du coup, d'être total focus et en même temps de ne pas entendre les autres bruits autour. Du coup, moi, c'est vrai
que... Tu fais l'ASMR pendant que tu bosses?
Ouais. Ouais, comme ça je suis ultra détendue.
Comme si t'écoutais la musique, mais
exactement. Ouais, moi la musique, peut ne pas me focus parce que si j'écoute une playlist années 90 par exemple, je vais être totalement hypée sur le sujet. Et ça va presque me déconcentrer. Parce que tu vois.
C'est ça que sur le boulot, ouais.
Ouais.
On est en train de chanter à gogo.
Voilà, voilà. Donc.
Non, mais c'est vrai que c'est pas mal pour pas mal de gens aussi, la musique. Mais du coup, comme là, on vient de parler par rapport à cet article-là de. En fait, c'est de toutes ces routines qu'on peut avoir au quotidien et des choses qui nous sont quand même assez personnelles, mais qui sont hors boulot.
Ouais.
On va parler maintenant avec le second article, donc 8 conseils de productivité qui sont un peu plus liés vraiment, vraiment au boulot.
Mmh.
Et donc, c'est 8 conseils que je trouvais quand même plutôt pertinents de cet article-là.
Ouais.
Et donc, je vais vous les lister tout de suite.
Vas-y.
L'article commence bien, puisque la toute première phrase que je trouve très pertinente également de l'article, l'auteur dit « Le temps est gratuit, mais inestimable ».
Ah, c'est beau ça.
Je te laisse songer.
4 heures.
ce sera le titre de ce podcast. Tiens. Le temps est gratuit, mais inestimable. Franchement, c'est une super phrase, mais ça me fait prendre conscience aussi que tout tourne aussi.
Grave, autour de notre, c'est trop temps, intéressant.
À disposition. Et ben, le premier conseil qu'il donne, du coup, c'est apprendre à prioriser.
Ah ouais.
On est d'accord.
Ah ouais. Je suis d'accord, ouais. Je peux pas dire autre chose.
Bah ouais, non, mais on est d'accord. Et en gros, il dit tu peux pas achever tes objectifs si t'as pas de priorité, parce que en fait, si t'as pas de priorité, ça t'emmènera vers aucun objectif.
Non, mais dans ta tête, c'est quand t'as pas d'objectif, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Il faut se le dire, parce qu'à un moment donné, tu sais pas sur quel front tu dois mettre ton énergie.
Bah, du coup, tu vois, c'est en lien avec le deuxième conseil. Faites de l'espace dans votre tête.
Voilà.
Notez toutes vos idées. Dans le sens où tu décharges ton cerveau, tu notes tout ce que tu as dans ta tête sur des. Bah, maintenant, il y a des applications de notes sur Internet, ou ce que tu veux, ou sur papier, ou sur carnet.
Ah, je le fais.
Pour te décharger.
Moi.
Et ensuite, tu priorises.
Exactement. C'est trop ça.
Donc, ça, c'est très bon conseil. Ensuite, il parle, c'est de séparer l'urgent de l'important.
Ouais, bah, mais du coup, on est dans. Bah, disons que l'urgent, je pense que c'est dans l'instantané. C'est un truc que tu es vraiment obligé de faire tout de suite. Imaginons, je ne sais pas, ta déclaration URSSAF. On est le 30 et à midi, il faut que ce soit fait, quoi, tu vois. Bon, là, c'est vraiment urgent.
Ouais, c'est urgent, mais c'est pas si important que ça. Enfin, c'est pas ce qui va, toi, te faire avancer dans ton business, par exemple.
Voilà, mais ce qui est important, je pense que ça a une notion plus de durée. Alors,
exactement.
Que je sais pas si c'est ça l'article, mais.
T'as tout compris.
Ah, putain.
En gros, il dit ce qui est urgent aujourd'hui peut ne pas être important demain.
C'est ça.
En gros, tu vas gérer tes urgences aujourd'hui, mais finalement, demain, t'es finalisé tes urgences aujourd'hui, ça n'a pas d'impact sur.
Sur long terme.
Sur l'évolution, sur le long terme, sur ton business ou sur ton boulot. Et du coup, c'est pas important, quoi, mais c'est ok, c'était urgent, il fallait le faire, mais
ouais, c'est vachement intéressant.
Et
ça,
du coup, séparer l'urgent de l'important, et petit tip, du coup, je sais pas si les gens connaissent, mais peut-être tu dois connaître la matrice d'Eisenhower, qui
pas du tout.
C'est un truc de productivité.
Mais attends, mais tu m'en avais parlé de ce truc, non ?
Qui est classique, peut-être. Mais c'est un truc, enfin, c'est un truc tout con, hein, mais c'est un petit type de productivité où, en gros, tu te fais un tableau et avec deux colonnes de lignes.
Mmh.
Et donc, tes deux colonnes, c'est urgent, important.
Mmh.
Et tes deux lignes, c'est pas urgent, pas important. Et en gros, ta première case, ça va être. Ce qui est urgent et important.
Ouais.
Ensuite, t'as la deuxième case, t'as ce qui est juste important.
Ah oui, d'accord.
Exactement.
Ah oui, non, mais d'accord.
Faut aller checker ça, c'est intéressant.
Là où, en fait, tu coches tous les paramètres, là où t'as qu'un seul paramètre.
Bah, en fait, c'est que ta to-do list, tu vas la squeezer dans ces catégories-là.
Mm.
Donc, t'as l'urgent à faire en priorité, urgent et important, voilà, c'est ça.
Mmh.
Ensuite, t'as l'important mais pas urgent, donc à faire en second. Ensuite, t'as l'urgent mais pas important à faire en troisième.
Ouais.
Et en quatrième, t'as le pas important et pas urgent. Et à ce moment-là, si t'arrives à mettre des choses de ta to-do list dans cette case-là, c'est tout ce que tu dois, en fait, quasiment ne pas faire.
Ouais, c'est ça.
Tu vas limite squeezer tout ça, c'est vraiment des trucs, et au final, est-ce que c'est vraiment essentiel ? Bah non, et tu vas juste squeezer, ça te permet d'en fait. ça revient au point numéro 1, ça permet de prioriser ta to-do list.
Exactement, et du coup de pas se sentir
enseveli. Et de l'argent de l'important.
Ouais. Ouais, mais c'est vachement... Franchement, je te le dis, moi j'étais trop perdue jusqu'à il y a peut-être 2-3 mois, donc c'est te dire, c'est pas... Pourtant je suis quelqu'un d'organisé, mais dans le sens où je fais vraiment... Tu vois, j'essaie de compartimenter, vider le cerveau, tout, tu vois, vraiment pour essayer de d'élaguer la zone et faire un peu d'espace dans mon mental, quoi. Ouais. Mais vraiment, le fait de lâcher prise sur l'urgent, l'important et tout le reste, c'est pas si facile, ouais. Tu vois, parce que tu t'accroches...
Ah non, c'est pas facile du tout.
Tu t'accroches à des petits détails et tu dis, ouais, mais ça, si je le faisais... Ça impacterait peut-être ça, qui impacterait ça, et là tu te prends la tête. Alors que vraiment, à un moment donné, lâcher prise sur des choses qui sont vraiment pas importantes, c'est hyper cool. Et du coup, je trouve ça bien ton histoire de liste à mettre pas important, pas urgent, tu vois. Parce que.
Ah ouais, c'est intéressant. Alors moi, je sais que j'en parlais dans un post Insta, mais c'est des tips assez un peu connus quand tu lis, quand tu commences à lire des trucs de productivité. Donc la matrice d'Eisenhower, je parle. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai essayé, tu vois, de mettre en place dans mon workflow et tout ça, mais c'est pas quelque chose que j'ai gardé sur le long terme parce que j'arrivais pas franchement, parce que au final, comme ça scinde ta to-do list en gros en quatre parties et tout ça, bah en fait, tu te retrouves à avoir des choses un peu de partout. Du coup, moi, ça m'allait pas trop. Oula, personnellement. Oui, oui. Après, il y a des gens chez qui ça va, mais il faut en parler, tu vois, c'est intéressant.
Ben, grave.
Rien que de séparer l'urgent de l'important, c'est déjà bien de faire une distinction dans son esprit.
Grave.
Après, utiliser cette matrice aussi, ça peut être un outil et une aide, ce qui est intéressant. Si ça convient aux gens, quoi.
Ouais, je t'avoue que maintenant, je me pose directement la question. En fait, quand je fais ma to-do, genre le vendredi pour la semaine d'après, enfin mon planning complet, je me dis qu'est-ce que j'ai pas fait cette semaine-là que je devais faire. Et déjà, je le réinjecte dans mon planning.
Oui, le reconduit.
Et voilà, exact. Et j'ajoute pas en fait des nouveautés pour saturer, tu vois, et me dire j'ai ça aussi à faire et tout. À un moment donné, je pense qu'il faut.
Être... Tu te poses aussi peut-être la question de est-ce que si tu l'as pas fait, est-ce que c'est vraiment important ou...
Ça dépend. C'est que on a tendance aussi à se surestimer par rapport à sa capacité d'action. Clair. Et parce qu'il y a plein de paramètres qu'on ne prend pas en compte, c'est-à-dire émotionnel. Imagine, un jour pourrave. un jour pourrave, clairement, ça va être dur de faire le vide dans ta tête et d'être vraiment concentré sur ta tâche. Du coup, quelque chose qui te prend une heure va peut-être te prendre de genre 4 heures.
Ouais.
Et ça, c'est un paramètre que tu ne peux pas contrôler en soi, tu vois. C'est vraiment aléatoire.
C'est pour ça que le quatrième point... Le conseil de productivité, c'est de se focus sur une seule chose.
Et ouais, mais voilà.
Non, on est bien.
Mais en fait,
c'est un vrai truc, mais...
C'est les étapes du deuil. Temps,
c'est... Ouais, c'est... Détends ça. Non, c'est un vrai truc de tout le monde, de petit à petit commencer à en avoir partout, mais finalement revenir à rester focus sur une seule chose à la fin.
Ouais, l'essentiel, en fait, c'est dire vraiment qu'est-ce qui est important là, maintenant, et qui va vraiment avoir un impact, tu vois, sur moyen terme, même court terme. Et puis, voilà, pas se culpabiliser de pas tout faire, parce qu'il y a ça aussi qui est compliqué.
Mais du coup, cinquième principe, c'est le principe du 80-20. Donc, la loi de Pareto. Qui est quand même assez connu aussi.
Que je connais pas, bien sûr.
Tu connais pas ? Non.
Non, je connais pas.
Tu connais pas la loi de Pareto ? Je vais te dire, tu connais.
Ouais, c'est en fait, je connais pas les noms, mais tu sais que j'ai un problème avec les noms, moi.
Bon,
mais...
C'est le principe du 80-20. En gros, c'est le principe qui dit que la plupart du temps, mais ça s'applique à énormément de domaines.
Ouais.
Mais en gros, les 20% de tâches que, par exemple, toi, tu fais dans ton quotidien, ça t'apporte 80% de tes résultats.
Ah,
et
ouais,
si
d'accord.
Si tu arrives à analyser, en gros, le temps que tu passes sur plusieurs actions, plusieurs tâches, plusieurs choses que tu fais, et tu analyses tes résultats, tu vas te rendre compte que la plupart du temps, après, ça peut varier un petit peu, hein, tu vois, mais la plupart du temps, c'est 80-20, c'est que la 20% des choses concrètes que tu fais, ça te rapporte 80% de tes résultats. Et quand tu sais ça, alors, ce qui est intéressant de voir dans ce principe-là, et que moi ça m'arrive de faire, c'est de faire le point en fait à un peu des checkpoints réguliers. C'est pas, par exemple, tous les 6 mois, tu vas te reposer dans ton workflow actuel.
Ouais.
Tu vas te poser avec ce principe-là et tu vas te dire, ok, qu'est-ce que je fais actuellement? Où je vais? Donc tu remets tes priorités, tu remets tes objectifs, etc. Et qu'est-ce que tu fais au quotidien et qu'est-ce qui fait que bah, dans les 20% que tu fais, ça te rapporte 80% quasiment de tes résultats.
Qu'est-ce qui est bougrement efficace en fait dans tout ça?
Mais c'est, normalement, dans tous les domaines, c'est pour ça que c'est une loi qui est hyper intéressante, ce truc-là.
Ouais.
C'est encore une loi de productivité, mais c'est un truc qui est super intéressant parce qu'il y a énormément de domaines en fait. Bah, c'est 80% des conséquences sont liées à 20% de causes en fait. Ouais, du coup, ce principe des 80-20 est super intéressant et c'est vrai que moi je conseille, et c'est ce que j'essaie de faire, c'est que tu peux pas le faire au quotidien tout le temps, mais de faire un peu le point tous les 3, tous les 6 mois, tous les ans.
Ouais.
Sur, parce qu'à chaque fois, notre workflow il évolue et on a, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas tout le temps les mêmes routines, on a les routines qui évoluent, etc. aussi.
Mm.
Et de se poser avec ce principe-là du 80-20, de se dire, bon bah, qu'est-ce qui me rapporte 80% de mes résultats ? Normalement, c'est à peu près 20% de ce que tu donnes, en gros.
Mmh.
Et analyser bah, justement sur quoi tu dois te focaliser et revenir au point précédent de rester focus sur une seule chose à la fois.
Ouais, carrément. Moi, c'est ce que je fais là, parce que ça reste de l'exploration, finalement. Tu fais plein de tests et puis tu vois un petit peu ce qui a des vrais résultats, là où ça prend pas trop, ou alors c'est beaucoup plus lent, tu vois. Et ne serait-ce qu'au niveau de la production de contenu, tu vois tout de suite quand tu crées un truc et qu'il y a un résultat qui est assez instantané comparé à d'autres trucs où c'est beaucoup plus mitigé,
ouais,
tu vois. Et ça peut être, je sais pas, ça peut être la régularité de tes posts sur Instagram, tout ça, en fait, faire un bilan et tu regardes les stats, en fait. Et tu te dis, bah tiens, sur quel sujet j'ai eu énormément de retours, est-ce que ça, c'est un sujet qui est efficace, finalement, et que je dois creuser et qui, du coup, me permettrait de faire des posts.
Après, ça, c'est l'analyse des tendances aussi de ce qui marche par rapport au contenu que tu produis. Mmh.
Mais même la façon dont tu formules les choses, le support, en fait, il peut être plus efficace pour tel sujet ou, tu vois, tel truc. Mais c'est vraiment très intéressant de faire un bilan, vraiment, genre tous les trimestres, imagine, de tout ce que tu produis, que ce soit les articles, et te dire, bah tiens, ça, concrètement, combien ça m'a ramené de personnes dans ma communauté,
exactement,
etc. Est-ce que c'est vraiment prégnant ou pas? Donc,
et même quand tu fais, pour parler plus du boulot de graphiste, quand tu fais, parce que toi, tu fais aussi pas mal de gros dossiers, par exemple, de stratégie, de marque, etc., avant de faire justement la création de la marque, de logo, etc.
Ouais.
Et ben, ça vaut vraiment le coup de se poser là-dessus avec ce principe-là en se disant, bon, ben, qu'est-ce qui marche dans mon dossier? Qu'est-ce qui marche dans ce que je fais dans la...
C'est trop intéressant.
Dans l'échange avec le client. Et logiquement, pour arriver au résultat que tu as fini, bah, 80% du résultat est quand même dû juste seulement à 20% de ton travail que tu as fourni, t'imagines ?
C'est ça que... Bah, alors, Marine, qui est du coworking virtuel là, que j'ai créé, c'est ce que je lui ai enseigné, en fait. Je lui ai montré que dans un processus créatif, en fait, pour que ce soit vraiment efficace, ça dépend d'un tout petit paramètre, enfin pas d'un tout petit paramètre, mais d'un dossier précis, bien cadré, que tu vas mettre en place au départ du projet. Alors là, c'est pas de la strat, mais c'est plus des recherches. Et en fait, une fois que tu as vraiment fait le point sur les objectifs, on va dire, avec le client, au niveau visuel, parce que là, on parlait d'identité visuelle, derrière, la création se passe super bien. Parce qu'en fait...
Parce que t'es en amont, t'as fait tout ce qu'il fallait pour driver le client, quoi.
C'est ça. Et ce que je recommanderais à tous les graphistes, c'est d'essayer de développer des outils en fonction des blocages, des problématiques qu'ils rencontrent au fur et à mesure de leur aventure avec des clients et de se dire, tiens, là, j'ai buté là-dessus. Comment, en amont, je pourrais créer un outil qui me permettre d'être plus en, en accord avec mon client, que ça crée pas du coup par la suite des soucis et compagnie.
Je
et
au vois final... exactement de quoi tu parles.
Voilà, et au final c'est ça, tu vois, c'est les 20%.
Alors, en général, quand t'as un business, par exemple sur des gens qui ont des business, que ce soit un produit ou un truc comme ça sur internet, le parfait exemple de ce que t'es en train de dire, c'est qu'en général, les gens reçoivent tout le temps, par exemple, tout le temps la même question.
Ouais.
Parce que ce soit dans leur fiche produit ou je sais pas, il y a peut-être un flou, un truc, et ils reçoivent tout le temps la même question. Tous les gens, toutes les personnes qui consultent leur site se posent tous la même question.
Ouais.
Et ben, le simple fait de mettre une FAQ sur le site avec la question et la réponse à cette question, ou même plusieurs autres questions pour égayer un peu l'avis sur le produit, et ben en fait, ça vient anticiper, comme tu disais, la problématique des gens qui posent la question et que toi, tu dois à chaque fois répondre à cette question-là. Ça te libère du temps, toi, ça libère du temps aux gens de t'écrire et tu réponds directement à la question parce que tu l'as prise en considération et c'est tout le temps la même qui revient.
Du coup, la question, elle est vite répondue.
La question
est vite répondue. Non, mais
bon,
ça me semblait nécessaire de le rappeler.
Carrément. Tu es bien. Je ne m'y attendais pas.
Oh, voilà. Vas-y, continue.
Bon, avançons. Sixième conseil de productivité de l'article, protégez votre temps. C'est-à-dire qu'en gros, toute chose qu'on vous demande, ou que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va vous demander des choses à faire, des trucs, et que... on est tous un peu victimes de ça, je pense, pas selon les personnes qui nous demandent, hein, bien sûr. Mais on a souvent le réflexe de dire oui. Et en fait, le réflexe de dire oui, c'est d'un côté laisser les autres être maîtres de votre temps à vous.
Grave.
Quand on vous demande quelque chose, de faire quelque chose, ou un avis, ou quoi que ce soit, ou on vous sollicite, et ben dès que vous dites oui, en fait, c'est que quelqu'un vous a pris de votre temps. Et si vous mettez pas de limite ou de barrière, en gros. Et ben après, ben la personne, c'est elle qui est maître de votre agenda, de votre temps, etc. Donc,
grave. C'est très intéressant, ça.
Il faut apprendre à dire non.
Oh ben ça.
Ou prendre le temps de peser le pour et le contre dès que quelqu'un vous demande quelque chose.
Ben après, le truc, c'est que c'est pas facile de dire non quand on est dans une position où on a la sensation qu'on doit toujours donner à son client et que finalement, on n'est pas sur une collaboration gagnant-gagnant, tu vois. Et je pense que c'est souvent le cas mais pour les graphismes, mais je pense que c'est pour plein d'autres domaines. Mais disons que nous, on est dans le graphisme.
Même dans le privé. Enfin,
oui, exactement.
Personnel.
Et je pense que c'est vraiment un truc qui est plus profond, apprendre à dire non. Et quand on est en free, au début surtout, on patauge un peu et on se dit tiens, je vais prendre tout et n'importe quoi, je vais pas trop mettre de limites finalement parce que j'ai juste envie d'avoir du taf, de rentrer de la thune et puis voilà quoi. Et c'est là que l'erreur c'est là que l'erreur se met en place finalement, parce que tu prends l'habitude de ne pas dire non et tu taffes énormément avec
un peu, en plus.
Voilà, avec un gain qui est minime, voilà. Et en fait, tu finis par te dire c'est nul. Le freelancing, c'est nul parce que
tu te décourages.
Ça. Mais tout vient du fait de ne pas avoir su définir des limites et dire non. Du coup, c'est trop intéressant, je trouve, son truc.
Moi, je nuance assez ce propos dans le sens où c'est pareil, il y a pas mal d'articles qui parlent de ça, qui parlent de apprendre à dire non, savoir dire non, etc. Parce que c'est un vrai truc que tout le monde, c'est pour ça que je parlais de ça au début du point, mais que ça arrive à tout le monde, et même dans votre quête personnelle, quand on a, je sais pas, votre famille, vos amis qui vous demandent des choses et que vous n'êtes pas dire non parce que c'est encore pire, c'est vos amis, c'est votre famille et tout. C'est difficile de dire non, mais des fois, il faut aussi pour préserver votre temps, parce que sinon, vous faites que des choses pour les autres, mais pas pour vous. Et moi, je nuance un peu ce propos dans le sens où je pense que c'est pas apprendre à dire non qu'il faut, c'est... simplement nuancer la chose en disant peut-être pas cette fois-ci, une autre fois, ou peut-être peut-être accompagner la personne.
Ah oui.
Pour pas le faire totalement ce qu'elle te demande, mais l'accompagner en lui disant bah, t'as peut-être cette solution là ou tu peux aller, peut-être aller voir cette personne ou la reconduire vers une autre solution parce que la solution qui est la vôtre bah, c'est pas à vous, ça vous convient pas forcément, vous avez pas envie, tu vois. Peut-être t'as pas envie de passer du temps pour t'as envie de dire non au départ, mais tu vas nuancer un peu le truc en disant bah écoute, il y a peut-être cette personne qui peut te le faire ou tu as peut-être cette solution là, etc. Moi, je le vois un peu plus comme ça, parce que c'est vrai que c'est très dur de dire un non franc.
Ah bah, oui, oui. Bah,
jamais c'est... dire un non franc, tu vois.
C'est non.
Pour un client, c'est pareil.
C'est non avec une ouverture, en fait.
Oui, c'est ça. C'est non. C'est ok, oui, je suis là pour t'aider, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas moi qui vais le faire.
Mais pas dans ces conditions-là.
Exactement, pas dans ces conditions.
Tu négocies, en fait, Denis.
C'est exactement ça. Tu rentres en négociateur, tu prends ton mégaphone et tu fais « Monsieur... »
Non, mais c'est... c'est intéressant au final parce
là,
que
moi, je vois plus comme ça.
Tu nuances le truc quoi, donc c'est pas noir là, ou
oui,
blanc.
Parce que c'est difficile, c'est enfin moi je pense que c'est un peu comme les enfants, mais c'est difficile de dire non quoi. C'est... Tu vas pas dire non à un non catégorique aux gens quand on... sinon après tu vas être les gens ils vont plus t'aimer, tu vois.
Ah bah alors Denis, voyons. Non, mais je veux pas être rejeté, putain!
C'est ça. Enfin, voilà. Le truc, c'est de dire non avec parcimonie. Mais,
très bien.
Prenez soin de votre temps, protégez votre temps. Septième point sur les huit, arrêtez d'être perfectionniste.
Ah bon?
Blondie! Viens voir, c'est un bon de
selon pas concerné.
Et ne sois pas perfectionniste.
Je travaille là-dessus.
Ouais, bon, on est tous comme ça, mais moi c'est pareil, je pense qu'on l'est tous, surtout dans notre métier, parce qu'on a envie de faire le plus beau graphiste, le truc le plus beau, le plus léché, le plus...
Oui, mais que veut dire le plus beau et le plus léché finalement?
Exactement. Il vaut mieux sortir un truc à 50% parfait que ne jamais le sortir.
Bah c'est ça, et puis c'est surtout que c'est ta perception qui définit finalement le...
Ah oui, complètement.
L'objectif.
Et c'est aussi là où tu... Enfin, je trouve que ça rentre aussi un peu avec le syndrome de l'imposteur, dans le sens où toi, tu veux faire le truc le plus parfait du monde.
Oui.
Et puis, tu mets du temps. Et en plus, tu te poses la question de savoir si t'es légitime et si ce que tu sors, c'est parfait, ça va être parfait ou pas. Et en même temps, la moitié de ce que t'as fait déjà, il y a plein de gens qui trouvent déjà ça génial.
Ah oui, mais...
ça génial.
Ah non, mais bien sûr. Non, mais c'est... D'ailleurs, il y a des gens que ça gaffe complètement. Quand t'as
c'est un fléau.
C'est une horreur. Mais souvent, ils vont main dans la main, en fait, le perfectionnisme et l'imposteur. Parce que je pense que avec le perfectionnisme, tu veux prouver que tu n'es pas un imposteur. Sauf que le perfectionnisme étant quelque chose d'inatteignable, puisque la perfection n'existe pas, ça nourrit toujours ton imposteur. Et en fait, c'est un cercle vicieux dans lequel tu te mets. Donc, il faut sortir finalement du perfectionnisme pour sortir de l'imposteur et accepter que tu ne fais pas du coup les choses parfaitement, mais que ça ne fait pas de toi un imposteur. Tu vois ?
Exactement.
Voilà, c'était...
Non, mais pour même aller plus loin dans ça, moi je trouve que c'est hyper important dans le sens où en fait t'es perfectionniste et t'as ce syndrome dans l'imposteur quand t'es vraiment, t'es toi-même face à ton projet, t'es tout seul, tu vois. Alors que quand tu commences à ouvrir un peu ton projet ou à le montrer à par-ci par-là à des gens et à ton entourage ou à droite à gauche ou à des amis et qui commencent à te dire putain c'est génial mais arrête, te casse pas la tête et tout ça, déjà ça te rassure sur le fait que t'es pas un imposteur et en plus ça te rassure de dire bon, bah, c'est vrai que je suis pas obligé d'atteindre la perfection idéale que je me suis fixée.
Oui.
Et je peux déjà sortir une première version comme ça et continuer à travailler cette version.
Non, mais c'est un travail dans la tête, avant tout.
C'est important aussi de s'ouvrir aux autres pour éviter d'être trop perfectionniste.
Bah, ouais. Je pense que, d'ailleurs, c'est comme ça que, de mon côté, j'arrive à travailler maintenant. Dessus, parce que c'est grâce au co-working, à vous, voilà.
Ouais, de partager un peu.
Ouais. Et d'avoir des retours. Et En fait, je pense qu'il y a une peur aussi d'avoir des retours négatifs et une sorte de susceptibilité. Tu vois, il y a un manque de confiance, ouais, en fait, ouais, quelque part, derrière aussi, qui est en lien avec l'imposteur. Donc,
ouais, carrément. Donc, voilà. Mais c'est pour ça aussi qu'il est bien de trouver des gens de ton entourage, ou que ce soit amis ou autres, de confiance, en qui t'es déjà, t'as un peu confiance.
C'est ça.
Et que tu sais que, ils vont pas forcément te juger, mais ils vont plus te conseiller sur ce que t'as fait.
C'est ça.
Pour sortir un peu de ce truc-là, que ce soit à la fois du perfectionnisme et de syndrome de l'imposteur.
Ouais.
Et donc, le huitième conseil et dernier conseil de productivité, c'est l'analyse de vos résultats. Qu'est-ce qui marche ou non pour vous dans vos process ? Et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, ça rejoint un peu un avis tout à l'heure qu'on disait sur notamment le principe de 80-20 ou des choses comme ça, vraiment de se poser de temps en temps, que ce soit, comme tu disais, par trimestre ou tous les 6 mois pour... analyser un peu ses résultats et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est aussi ça. Bien dans je pense dans les retours de ce que tu fais, donc de ce que tu produis, mais aussi dans tes process personnels.
Ouais.
Je sais que t'es quelqu'un de très process.
Moi je suis très procédurière comme personne.
Ah bon? Non,
c'est faux. Non. Ben non, mais ça me rassure en fait d'avoir des process, parce que, et puis j'aime aussi optimiser mon temps parce que c'est précieux, c'est ce qu'on disait, et tout ce temps que tu ne passes pas à chercher, à bosser, tu le prends pour toi et pour faire des choses en dehors du travail, c'est hyper important, tu vois.
Carrément.
Voilà.
Le temps est gratuit, mais inestimable.
Ah ben oui, attends, mais j'avais mis dans un post une fois, ou un article, le temps, ce n'est que du temps, c'est pas de l'argent, un truc dans le genre.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, t'as raison.
Mais j'avais pété un câble, en fait. parce que j'entends tout le temps, le temps, c'est de l'argent, et ça m'énerve, parce que ça supposerait que du coup... le temps n'est que lié au travail, puisque c'est le travail qui est rémunérateur, c'est pas ta vie. Tu vois, c'est ça. Et supposerait que le temps n'a qu'une seule valeur, l'argent. Et c'est faux, parce que. Oui, c'est ça, mais disons que c'est un truc très libéral, très productif, justement, cette notion-là, le temps c'est de l'argent. Le temps, c'est juste du temps. Après, t'en fais ce que tu veux. T'en fais de l'argent, t'en fais du bien-être, t'en fais, tu vois, t'en fais ce que tu veux.
Ouais, carrément.
Donc, fais-le.
Ouais. Eh bien, on conclut, du coup, cette longue chronique conseil de freelancing. Et on va passer à la chronique de notre chère Blandine.
Oui.
De quoi vas-tu nous parler ?
Alors, moi, je vais parler des droits d'auteur de manière totalement inattendue.
Non, mais c'est bien, ça fait un premier pas pour les gens qui nous écoutent sur le droit d'auteur.
Oui, parce que...
tout ce qui encadre notre activité.
Disons que je préfère parler des choses que je connais. Et le droit d'auteur, c'est quelque chose que je connais bien. Après, est-ce que je suis incollable dessus ? Non.
Mais oui, tu l'es.
Mais pas du tout. Il y a plein de zones.
T'es pas avocate, mais voilà.
Non. Je connais pas mal de choses.
Donc voilà.
Et
on va dire ça. T'en sais quand même.
Et disons que il y a énormément de croyances autour du droit d'auteur. Ça, c'est vrai que tu vas sur Internet, tu as tout, n'importe quoi.
Ouais.
Ça, on est d'accord sur le sujet. Tu vas sur un forum, tu as à peu près 500 réponses pour une seule question et tu sais jamais vraiment quelle est la bonne et du coup te positionner sur le sujet. Donc aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais aborder une question que j'entends très régulièrement et que je lis régulièrement sur le coworking virtuel que j'ai créé. C'est... est-ce que j'ai des droits d'auteur lorsque je crée ma micro-entreprise, donc aussi appelée auto-entreprise, pour les auto-entrepreneurs, voilà, sous la catégorie graphiste sans droits d'auteur ? Parce que c'est vrai que c'est déjà, ça annonce un peu une sorte de couleur négative dans le sens où...
Il y a une catégorie qui s'appelle comme ça, graphisme sans droits d'auteur ?
Ouais, c'est graphisme sans droits d'auteur. Ben, parce qu'en fait, il y a une notion, une différence entre artiste-auteur et artisan, en fait, tout simplement. Mais, bien sûr, sauf que c'est pas clair du tout.
Non, c'est pas clair, parce que j'imagine que c'est pas... C'est pas la réalité de l'intitulé, c'est
ça ? Ben, non. Et en fait, le truc, c'est que l'intitulé sans droit d'auteur, donc, fait paniquer énormément de graphistes et ils se disent « Ah, bah du coup, j'ai pas droit d'auteur. Donc, je ne fais rien par rapport à ça, je ne fais pas de session, je ne fais rien du tout. » Et donc, est-ce que cet intitulé veut dire que la personne a des droits d'auteur ou non ? Mais la réponse est oui, elle a des droits d'auteur. Et donc, du coup, je vais expliquer pourquoi. Donc, on sous-entend généralement qu'en s'inscrivant à la MDA, donc la Maison des Artistes, et en étant artiste-auteur, du coup, de fait, on a l'exclusivité sur l'aspect droit d'auteur. Ce qui veut dire que Et du coup, tout ce qui est auto-entrepreneur, mais que ce soit aussi dirigeant d'une URL, donc c'est une société, ou une SASU, tous ces gens-là aussi donc, n'auraient pas droit d'auteur, techniquement, quand ils créent un logo ou quelque chose comme ça. Mmh. Et moi, j'ai énormément d'amis qui, autour de moi, qui parfois avec qui je me suis un peu frittée, je ne vais pas le mentir, hein. Oui.
Sur les droits d'auteur.
Putain, ouais, parce que. Ben en fait, souvent je dis et du coup est-ce que tu as cédé les droits sur ce logo, etc. Parce que c'est autant dans l'intérêt du graphiste que dans l'intérêt du client. Donc c'est pas quelque chose.
C'est dans l'intérêt de tout le monde.
Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment mettre le client et toi-même sur un pied d'égalité et en fait juste lui donner les droits de quelque chose que tu as créé. Ça s'arrête finalement là. Hein. C'est pas hyper tricky dans le process. T'es pas là pour arnaquer qui que ce soit. Juste en fait faire une session. Voilà.
Oui, parce que en plus, mais je pense que peut-être ce que les gens ne savent pas ou n'ont peut-être pas forcément conscience, c'est peut-être qu'une session, tu peux céder les droits de ton logo, de ta création, gratuitement en fait.
Mais bien sûr, c'est ça en fait.
Ça aussi. Je pense que c'est ça que les gens n'ont pas forcément conscience, et c'est pour ça que peut-être tu te frites avec. C'est que t'es pas obligé de les faire payer en fait.
Non, parce que tu as le droit. De les céder à titre gratuit. C'est dans la loi, d'ailleurs, dans le code de propriété intellectuelle, on admet que tu puisses céder à titre gratuit à partir du moment où tu es consentant pour le faire. C'est-à-dire qu'on ne te force pas. Alors, voilà.
En fait, à partir du moment où tu crées un document de cession de droit, c'est que les deux parties sont consentantes.
Exactement.
Et après, tu fixes le prix.
Voilà.
Oui, d'accord.
C'est ça. Voilà. Ça et tout.
C'est vrai que vu comme tu le dis toi, c'est pas très simple, mais je pense que c'est peut-être un manque d'information de la plupart des gens et des entrepreneurs sur le sujet. En fait, t'as l'impression que c'est payant et que ça va coûter une blinde parce que ce que t'entends parler en général de cession de droits, c'est parce que c'est des grandes marques qui ont payé des cessions de droits sur leur logo, je ne sais quoi. Alors qu'en fait, il n'en a rien.
Ben, c'est souvent que tu peux entendre ça pour énormément de choses. Hein. Tu peux l'entendre pour la musique, avec, par exemple, les droits. J'ai acquis les droits sur telle musique pour la mettre dans mon émission. Tu vois, il y a énormément de choses. C'est pareil pour les jeux vidéo. Tu peux acquérir une licence pour tel ou tel truc et la transformer, je sais pas, en série, tu vois, ou en film. Donc, le droit d'auteur, en fait, il est un peu de partout. Sauf que il est différent entre la France et les autres pays.
C'est
ça aussi, voilà. Moi, je ne parle que du droit français là. Donc,
c'est déjà pas mal. Hein.
Oui, c'est déjà bien.
Mais déjà vu comme l'administration française, on a déjà de quoi faire.
Ah ben, c'est surtout qu'en plus, et c'est ce que je répète souvent quand je discute du droit d'auteur, c'est qu'on a une chance inouïe, c'est qu'en France, le droit d'auteur est très puissant. C'est-à-dire que les créateurs, les auteurs ont des droits inaliénables, qui sont les droits moraux, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'on ne peut pas l'enlever, en fait.
Pour répondre à la question que tu soulevais un peu au début, de savoir quel est... Est-ce que quand tu as une micro-entreprise, tu as des droits d'auteur ? Est-ce que quand tu as une URL ou une SS, ou etc., tu as des droits d'auteur, etc. ?
Bah oui.
La question est vite répondue.
Ah, mais non.
Non. Je suis obligé de la faire.
C'est vrai que tu soulèves un point.
Non, mais je voulais dire par là, en fait, que... Enfin, en fait, cette question, elle est vite répondue, parce que le fait que, à partir du moment où tu crées une œuvre originale, t'as des droits d'auteur.
Attends, parce que là, t'es en train de me prendre ma chronique, là. Donc...
Ah oui. Je pose des questions. Je pose des questions ouvertes. Il faut que tu répondes.
Alors, je vais répondre. Du coup,
comme tu mentionnais, c'est toutes ces entreprises-là dès le début, de savoir est-ce qu'il y a de la droit d'auteur ou pas sur ces entreprises.
Il y en a pour tout le monde.
Ces entreprises-là.
Voilà, c'est la réponse, tout simplement.
D'accord.
Il y en a pour tout le monde, en fait, à partir du moment où tu crées quelque chose, effectivement. Mais attends, je vais remettre les choses dans leur contexte. C'est que les droits d'auteur, en fait, sont dans un code qui s'appelle le code de propriété intellectuelle. Donc, il y a des lois qui sont relatives aux droits d'auteur et qui sont là-dedans et qui ont été créées à peu près à l'époque de la Révolution. Donc, on est dans un truc qui est très vieux et qui a été créé par des avocats et en même temps des gens qui avaient des notions artistiques. Donc souvent, il y avait des artistes, des choses comme ça. Et donc, en gros, pour se protéger, tout simplement, on réfléchit à quelque chose qui deviendra le code de propriété intellectuelle et qui, bien entendu, va évoluer tout au long de ces années, parce que tu te doutes bien que depuis cette période-là, nous avons un petit peu évolué. Voilà.
Avec Internet, tout a changé.
Et donc, en fait, pourquoi, du coup, on s'en fiche de savoir quel régime fiscal, social, statut juridique tu as.
Statut,
mais c'est tout simplement parce que à cette époque-là, ça n'existait pas une SASU. Hein, donc voilà. Donc en fait,
différents statuts ou même en plus le statut micro-entreprise est quand même
assez intéressant. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, ça ne s'inscrit pas dans une notion administrative. Ça s'inscrit vraiment dans une notion de création. Donc c'est vraiment, il faut enlever tout ce qui est juridique et tout ce qui est administratif de cette conception du droit d'auteur, puisque ça n'a strictement rien à voir. Voilà, les deux en fait n'ont rien à voir. Bien entendu que si tu te rémunères, tu vas déclarer quelque chose et tu vas devoir payer des taxes dessus. Mais
en fonction de ton statut.
Voilà, en fonction du régime fiscal que tu as et du statut, non, parce que le statut, en fait, c'est souvent. Alors là, je vais partir dans une chronique juridique très profonde, en fait. Je me rends compte.
Non, restons sur place. Pour schématiser.
Le statut, finalement, c'est artiste, artisan, profession libérale. C'est ça le statut. C'est pas un régime fiscal.
Oui, c'est pas.
Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Le régime fiscal, après, derrière, on va être sur société, SASU, machin, etc. Donc, c'est bien à distinguer également. Souvent, j'entends.
Faites attention sur les mots.
Bah, oui.
Attention mais non, mais aux mots c'est qu'on vrai. Utilise.
Donc, pour se recentrer, finalement, le droit d'auteur ne va dépendre que de deux choses très importantes. C'est créer une œuvre originale, en être l'auteur, bien sûr, et que cette œuvre soit dans une catégorie qui est répertoriée par le code de propriété intellectuelle. Alors nous, les œuvres graphiques et artistiques, on est dedans. Donc ça comprend tout ce qui est logo, illustration, mais ça comprend également les maquettes, si on fait des magazines, des choses comme ça. Ça va beaucoup plus loin qu'on ne le pense, c'est pas juste le logo, en fait. Disons que le logo, c'est très connu, parce que même on entend parler pour les marques.
Oui, parce que c'est synonyme d'identité. Donc.
C'est ça, exactement. Mais dans l'identité visuelle, par exemple, si on crée des icônes ou des petites illustrations, etc., ça aussi, techniquement, ça doit être encadré dans une session. Voilà.
Un charme graphique, quoi.
D'accord. Exactamente. Et ensuite.
Allez, on continue le podcast en espagnol.
Et ensuite, du coup, le droit d'auteur, ce qui est très important, c'est de céder donc ses droits d'exploitation en tant que personne physique, puisque finalement, tu es auteur, mais tu es auteur en tant que personne.
Oui,
une personne physique, c'est une personne, tout simplement, avec un nom et un prénom, une personne vivante.
Oui, tu peux pas mettre ton nom commercial de société.
Voilà, donc tu vas pas.
Et
tu peux le mettre en fait sur ta session, mais il faudra quand même que tu précises une personne physique pour être sûr
parce que. De toute façon, on rentre dans le cadre de la loi et la loi, c'est des personnes.
C'est ça.
Personne à personne.
Et par contre, tu peux le céder à une personne physique ou à une personne morale, donc une société, une association, un groupement de personnes, en fait. Tu n'es pas obligé de le céder, voilà, à une seule personne. Donc, il faut bien le préciser. Et du coup, ces droits d'exploitation doivent être bien entendu bien énumérés, bien précisés. C'est pas obligé d'être très complexe. C'est juste que ça doit être précis. Voilà.
Super.
Voilà, voilà, vous savez tout.
C'est cool. Non, mais c'est super intéressant parce que ça, enfin, je trouve que ça démythifie justement un truc qu'on a l'impression que c'est un monument un peu intouchable et que, et comme tu dis, où tes amis te disent, bah, bon, de toute façon, on n'a aucun droit, non, on a des droits. Les droits d'auteur, c'est à partir du moment où tu as une création, une œuvre originale.
Ouais.
Comme nous, en tant que graphistes, les œuvres qu'on crée rentrent dans le cadre du droit d'auteur. On crée des œuvres originales, donc on a le droit d'auteur. Et après, c'est à nous de créer un contrat de droit d'auteur à titre gratuit ou qu'on fait payer.
C'est ça.
On signe les deux parties, comme ça les deux parties sont consentantes. Et on est dans le cadre de la loi.
Et on est bon.
Du droit d'auteur.
Voilà,
et on est bon sur la session de droit. C'est pas plus compliqué que ça.
Et en fait, c'est pas complexe, tu vois, quand on y pense vraiment.
Comme Blandine nous explique, c'est génial.
Eh ben voilà, c'est ma spécialité.
Non, mais c'est super, moi je trouve ça bien.
Et tu vois qu'en fait, finalement, tout ceci a un sens à partir du moment où tu comprends d'où il vient. D'où vient la création de tout ça. Parce
que... t'as raison de faire l'historique aussi.
Eh oui, c'est ce que je fais dans ma formation droit d'auteur.
Ah là là. Et oui, si vous ne savez pas, Blandine a sorti une formation de droit d'auteur complète. Où ici, vous avez un peu le...
Je raconte des histoires.
Sur les balles. Voilà. Mais dans la formation, il y a tout ce qu'il faut avec plein de documents, avec la totale.
Et on mettra
les liens.
Et puis j'aime bien recontextualiser tout ça. Tu vois ce que je suis en train de faire maintenant. Et rendre vraiment les choses beaucoup plus simples et plus fluides, en fait, finalement. Et puis se dire qu'on a des droits, que c'est pas forcément un combat, tu vois. Tu peux céder même gratuitement, mais au moins, tu le sais, t'en as. Et je trouve ça même cool pour la confiance en soi et même la valorisation de son travail,
ouais,
quoi.
Oui, c'est clair. Moi, je trouve ça hyper valorisant.
C'est vachement bien.
C'est vrai que ça te donne confiance parce que tu te dis que t'as bouclé ton... Enfin, à partir du moment où t'as fait ton document de session de droit, t'as vraiment bouclé ton projet, t'es clean, t'es carré.
Ouais. Et puis quand tu le maîtrises, t'es content parce que je sais que moi au début j'étais en galère parce qu'en fait souvent tu associes vraiment quand tu vois les contrats sur internet, il faut s'accrocher. Il y a un jargon, mais tu n'y comprends mais strictement que dalle. Hein. C'est fait pour être incompréhensible, t'as l'impression.
Tout ce qui contient le mot droit en général, c'est pas
très... c'est hyper alambiqué en fait pour une signification qui est finalement simple. Et quand tu simplifies vraiment tout ça à l'extrême, tu te rends compte que tu peux le maîtriser. Et au début, moi, je galérais vraiment, et c'est comme ça que j'en suis venue à simplifier les choses. Mais par contre, t'es trop fière. Une fois que t'as vraiment tout compris à la mécanique et que tu fais ça en un quart d'heure maximum, tu vois, et que tu dis, j'ai fait une session un quart d'heure et voilà, la boucle est bouclée.
Ouais,
et...
tu fais rentrer dans tes process après tout.
Exactement, oui. Tout à fait.
Et c'est super. Bon, au moins, on a appris plein de choses. On va passer maintenant au mini-jeu.
Cool.
Ouais.
Oui.
Alors du coup, tu as déjà vu ce que c'était un mini-jeu, mais je vais l'expliquer pour ceux qui nous écoutent. On va faire un petit mini-jeu où l'idée, ce serait de deviner le logo dont je vais parler. C'est un jeu qui m'a été inspiré par l'émission du coup de Burger Quiz, que l'on aime tous, puisqu'il y a des mini-jeux très amusants.
Bien sûr.
Où l'idée, c'est comme si on était comme on s'imagine si on est dans une agence de com, en réunion avec plein de créatifs, et puis... on a l'idée du logo de l'entreprise. Et donc, c'est comme le pitch du jeu, pitcher le logo, qui est le logo actuel d'une grande entreprise qu'on connaît tous, pour que ce soit assez large. Et du coup, on va tester ça. Donc, je vais t'en faire quelques-uns, Blandine, où tu vas essayer de donner le logo.
Alors, la pression.
J'ai choisi d'autres là donc, que tu n'as pas vu.
Ouais.
Et je suis sûr, le premier, tu vas arriver à le trouver.
Vas-y, balance.
T'es prête?
Ouais, je suis prête.
Alors, moi, j'ai une idée de logo. Je pense que... Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans l'entreprise. Hein.
Oh, d'accord.
Bon, on prend un cercle, tu vois, donc un cercle.
Ouais.
Et dedans, on pourrait mettre dans le cercle une sorte de déesse, une divinité, comme ça, ça représente une sorte d'icône, tu vois, une mascotte.
Très bien.
On aurait une femme, le cheveu un peu ondulé, avec une petite couronne et une étoile sur la couronne.
Ah, ça me dit quelque chose, ça.
Et cette femme-là serait une sirène.
C'est Starbucks.
Ouais. J'imagine trop les mecs, quoi. Tu sais, en réunion, c'est dire bon, on fait du café, ouais, bah on va mettre une sirène.
Ouais, bien sûr.
Avec deux queues sur les côtés, comme ça, avec deux queues de sirène sur les côtés.
Mais je me souviens plus, je crois que j'avais lu les origines du logo, ça remonte, hein, mais ouais, mais c'est en lien avec la vision qu'ils ont de l'entreprise. C'est ce que je fais en ce moment dans ma stratégie de marque. Je reprends trop.
Mais ça, je trouve ça trop marrant.
Mais ouais.
Le café, bon, on va
foutre un éléphant. C'est ça. Vas-y.
Du coup, second logo. Ah, c'est cool. Tu vois, j'étais sûr que tu allais le trouver. T'en as un pas très loin de chez toi, ça va.
C'est vrai, c'est vrai. J'aime bien.
Second logo. Alors. Moi, je voyais ça comme un grand rectangle, plus long que haut.
D'accord. Bleu, oui.
Un bon bleu roi, un peu pétant.
Ouais.
Et dessus, on met un ovale jaune.
Non, mais arrête.
La largeur du rectangle.
C'est Ikea.
Tu l'as? Ouais. Je fais moins de détails.
Ouais, grave, parce que là, je l'ai instant. Alors déjà, le rectangle, le paysage, je l'avais déjà. Alors bleu, c'est fini. Hein.
Je devrais pas te dire les couleurs. En fait. Et ouais, bon, on a le
électrique. Bah veux. Oui. Vas-y, un plus dur.
Alors, je sais pas si tu le connais, ce logo.
Vas-y.
Parce que c'est un logo qui est connu dans les... Pas les illusions de logo, mais dans les...
Ouais.
Dans ce qu'il faut voir dans le logo.
Okay.
Alors, c'est un logo qui a une forme de losange.
D'accord.
Et à l'intérieur de ce losange-là,
ouais.
On pourrait mettre la première lettre, en fait, de la marque en plein milieu du losange.
Ouais.
Ce qui créerait un vide dans le losange. Et du coup, on aura un losange en deux couleurs, donc rouge et bleu, tout simplement.
D'accord.
Et comme ça, on pourrait nous voir de loin, et puis ça ferait comme deux flèches de part et d'autre, à droite et gauche.
Mais attends, est-ce que c'est pas Carrefour ?
Non ? Si, mais bravo. Putain, tu trouves instantanément, quoi.
Bah, en fait, je me disais, attends, dans les logos d'illusion, quels articles j'ai lus
et là, tu le connais, du coup, tu connaissais.
Bah, c'est la culture. C'est la culture. Ouais, mais bah, disons
qu'il y a plein de gens qui le voient pas, qui l'ont jamais vu, ce truc-là.
Ouais, mais genre.
Ma femme me l'a dit il y a pas longtemps, mais elle m'a dit un jour. Ah ouais, c'est un C, le logo.
Non, mais il est hardcore, le logo de Carrefour. Franchement, c'est ouais.
Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre logo pour toi? Après, je me retrouve à court de logo, tu vois. T'es trop fort, toi.
Non, mais j'ai bien lu mes articles.
Alors, pareil, donc on est une entreprise, mais on va faire un logo qui est pas du tout pareil que ce qu'on fait.
D'accord.
On va prendre une coquille Saint-Jacques, tout simplement.
Très bien, ouais.
Et on va la mettre de face.
Ouais.
Comme ça. Et ce sera notre logo. Qu'est-ce que c'est?
Ah, purée, alors ça, j'ai pas. Enfin,
je vais rester. Je vais rester plus simple, comme ça, tu te trouves moins facilement.
Non, mais il m'en faut plus, là.
On prend notre coquille Saint-Jacques, donc juste de face, avec une bonne silhouette de coquille Saint-Jacques, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, la coquille Saint-Jacques en jaune. Avec un
Shell.
Ouais. Tu vois, c'est dès que je te dis les couleurs.
J'associe en fait les codes, tu vois.
Et c'est les codes du logo. C'est comme tu vois, on est une grande entreprise. On va prendre un carré.
Ouais.
Qu'on va mettre d'une couleur.
Mm-hmm.
Et voilà.
Des carrés.
Quelle est cette entreprise? Un carré d'une couleur.
C'est tout?
Et on va mettre le nom de la marque dedans, dans le carré.
D'accord, ouais, mais là, il y en a pas mal quand même qui font ça.
Ouais, mais là, c'est très spécifique parce que nous, ce qu'on va faire, c'est que le carré, il a la couleur de la marque.
Ah ouais. Ah, je sais pas.
Le couleur du nom de la marque.
Couleur. Ah, attends. Alors, je suis en train de me faire toutes les couleurs, du coup. Attends, il y a quoi? Il y a red? Non, c'est pas ça. C'est un carré.
C'est un carré. On a mis le nom de la marque dedans. Et le carré a la couleur du nom de la marque.
Ah, je sais pas.
Ah, putain, jaune. Si j'étais sur celui-là.
Sérieux, il est super simple en plus.
Ah bah ouais, il est pas compliqué.
Je sais pas, je donne ma langue au chat.
Une entreprise française ?
Orange, ça y est.
Ah bah voilà, tu vois, c'est... tu penses à l'anglais direct.
Ouais, bah oui, moi j'étais sur Raid, Raid by SFR, la marque de SFR.
Orange, exact.
Ah ouais, ah, mais j'étais... Bah
t'es trop... Ouais, faut que je lui demande détail, faut que je lui demande détail. Bon, on va en faire un petit dernier pour nos auditeurs.
Pour la communauté.
La pour commu. La communauté, non. Et que tu connais déjà parce que je les avais écrits. Mais on va voir si les gens le trouvent. Et si les gens le trouvent, qu'ils le marquent directement, qu'ils aient nous le dire sur Instagram. Ou,
oui, il faut que tu nous mettes d'ailleurs un
dans
lien.
Dans les commentaires d'un article qui sera sur le site plus tard.
Très bien.
Alors, on met le nom en grand du coup de l'entreprise, donc assez grand, avec une typo en serif, donc en majuscule comme ça, c'est parce qu'on est une entreprise dans le luxe, donc c'est classe. Hein.
Ouais.
Donc en vert forêt, et puis au-dessus du nom, on met une petite couronne à 5 branches, et au-dessus de ces 5 branches, on met des petits ronds au bout.
Ouais.
Quel est ce logo ?
Uh-huh.
Quel est ce logo avec une grande typo vert et une petite couronne par-dessus ?
Aïe, aïe, aïe.
À vous de trouver.
Je sais pas du tout.
Et toi, tu l'as déjà. Voilà le dernier logo.
Ah, j'ai hâte de savoir, tiens.
Ouais, t'as hâte de savoir, toi. Bon, voilà, c'était mini-jeu. Si ça a plu aux gens et si ça te plaît aussi, on en fera sûrement d'autres.
Cool.
D'autres,
Moi, j'adore les mini-jeux.
Pas forcément sur les logos, mais ouais, il faudra qu'on trouve des petits mini-jeux à faire, ce serait cool. Du coup, on passe à la ressource du jour où, pour bien démarrer cette rubrique, je voulais partager des ressources d'applications ou logiciels de gestion de projet. Parce que soit quand on démarre notre activité ou quand on est en plein milieu et qu'on a envie de, justement d'optimiser un peu nos process et un truc comme ça, on est souvent à l'affût du meilleur outil de gestion de projet.
Bien sûr.
Et même moi aujourd'hui, comme tu le sais bien, j'en teste de nouveau tout le
non,
temps.
Mais, non mais moi aussi. Hein, donc
parce que aussi, il y en a énormément qui existent en fait aujourd'hui et c'est vrai qu'il faut un peu trouver chaussure à son pied entre guillemets.
Ouais, oui. Est-ce
et
qu'on serait pas
coup,
un peu curieux aussi?
Je vais parler de plusieurs que j'ai testés, que tu connais aussi, et tu vas pouvoir aussi dire ton ressenti sur certains que tu utilises.
Oui.
Et que tu connais.
Oui.
Bien sûr, le premier que je recommande parce que je l'utilise et que j'aime beaucoup, c'est Milanote, parce que c'est mon chouchou.
Bien sûr.
Non, je l'utilise pas mal, Milanote, parce que c'est une appli qui dise un peu pour créatif, entre guillemets, mais qui est assez libre. Et moi, j'aime beaucoup la liberté. Où on a un canevas infini où on vient mettre dessus des petits modules de texte, d'images, des liens, etc. On peut cliquer, glisser. On peut venir mettre ce qu'ils appellent des boards, où c'est un peu comme des dossiers finalement. On rentre dedans et on vient créer chaque dossier pour chaque univers, etc. qu'on fait. On peut mettre des to-do list, bien sûr, et relier les choses par des flèches, etc. C'est assez bien fait, c'est hyper flexible et comme on le fait pour ce podcast, on peut le partager avec d'autres gens et bosser sur le même espace de travail. Donc c'est
ouais.
plutôt cool.
C'est vrai.
Je ne sais pas ce que tu en as pensé du coup, on l'utilise pour le podcast.
En fait, je n'ai pas assez exploré pour vraiment te donner un avis
oui,
hyper objectif.
Fond,
mais... Voilà. Mais peut-être que c'est trop libre.
Pour toi, c'est trop libre. Tu mets ta vie de liberté.
Ouais.
Cet outil est pas mal.
Je pense que c'est vachement bien.
Un peu plus de cases.
Après, il y a aussi la notion, et je pense que c'est assez intéressant. Quoique, je vois que tu peux bosser en vertical ou en horizontal, en fait, finalement. Ça dépend
ah
de.
Oui,
ouais.
En fait, si tu veux, l'espace de travail est infini, à droite et à gauche. Et à chaque
c'est
fois que tu rajoutes des éléments, ça t'agrandit l'espace de travail.
Ouais. Moi, je sais pas, j'ai une attirance pour le scroll vertical. Je déteste l'horizontale, je sais pas pourquoi. Ça me... C'est pour ça que j'ai arrêté.
C'est vrai que non, je l'ai positionné dans l'horizontale.
C'est peut-être pour ça.
C'est bien ça.
C'est sûrement pour ça. Mais sinon, je pense que c'est vachement intéressant et que ça mérite d'être vraiment exploré parce que ben, on a presque la sensation d'avoir un mur sur lequel on vient agrapher ou...
Ah, c'est ça. Ouais, bah, ouais, c'est un peu... C'est un peu comme un Pinterest, mais
ouais.
On vient mettre du texte, des liens, des photos, un peu de tout, et on peut faire plein de dossiers, en fait.
En fait, c'est...
dans les dossiers, en
c'est hyper créatif. Disons que...
Exactement.
Voilà.
C'est, ouais, c'est pour ça que je l'aime, et c'est pour ça aussi que je le conseille, parce que je sais qu'il est très très différent d'autres logiciels de gestion de projet.
Oui, c'est vrai.
Qu'on va voir ensuite, mais ouais. C'est un petit outsider, voilà.
C'est vrai, non mais c'est vrai que c'est intéressant, franchement.
Ouais. Ouais, il est pas mal à tester. Après, du coup, on a Trello que toi tu utilises pas mal.
Bah, plus maintenant.
Et je sais qu'il y a. Ah, c'est vrai, tu n'utilises plus. Ah, bah, ça change.
Ça tombe bien.
Le dernier podcast, tu me bandais Trello.
Ce podcast était
si
en février.
Le dernier podcast, c'était là, mais le dernier, tu m'as vendu Trello parce que tu l'utilisais aussi en collaboration avec tes clients.
Ouais.
Et
bon,
tu ne l'utilises plus.
Ben. Oui. Je l'ai abandonné.
Comme quoi, on change tout le temps de gestion de projet.
On m'a recommandé un autre logiciel et du coup, je suis partie dessus. Pour le moment, il me plaît bien, donc j'ai abandonné Trello. Ouais. Mais je te laisse le présenter d'abord et puis après je.
Bah, du coup, Trello, c'est assez simple. Ça marche par donc c'est un peu plus cadré, mais ça marche par colonne. Où c'est des colonnes où on va pouvoir lister des projets, des tâches, des choses. En fait, on va lister des sortes de tuiles qu'on peut déplacer de colonne en colonne. Et en fait, à chaque colonne, on peut dédier un projet. Et dans chaque colonne, on va mettre des tâches, des choses comme ça à faire. Mm. Et dans chaque tâche, on peut mettre aussi du texte, on peut mettre plein de choses. Enfin, tu peux en parler aussi. Tu l'as beaucoup utilisé.
Ouais, moi, ce que j'adorais dans Trello, c'est que tu peux, en fait... donc, tu as toutes les colonnes. Donc, ça, c'est vraiment génial. Pour chaque projet, donc, tu crées des colonnes. Tu peux créer plusieurs projets, hein, bien sûr. Enfin, chacun a ses colonnes. Ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé de créer un projet et après, tu es obligé de faire avec... Tu crées plusieurs projets et chacun, à l'intérieur, tu crées des colonnes et dans ces colonnes-là, tu mets tes tâches.
C'est vrai, tu peux créer des tableaux et ensuite, dans ces
voilà.
tableaux, tu crées
c'est
des
ça.
Colonnes.
Et ce que j'adore, en fait, ce que j'adorais, c'est que généralement, le tableau, c'est... Tu lui mets un intitulé, donc un objectif, par exemple.
Ouais.
Et à l'intérieur, tu mets donc les tâches qui sont en lien avec ce truc-là. Et dans ces tâches, en fait, tu peux mettre à la fois des images. Par exemple, tu sais, comme ça peut se faire...
Ouais, c'est un peu comme une catégorie, quoi.
Ben non, c'est en fait, tu sais, quand tu vas faire une publication sur Facebook, par exemple, tu sais, tu as un aperçu avec une image de l'intérieur de ton article. Et ben en fait, en gros, là, ton étiquette, ta tâche... Tu peux lui mettre une image de couverture.
Ça fait comme une pop-up. C'est pas une nouvelle page que tu ouvres.
Ouais, c'est juste t'as le titre en fait de ta tâche et au-dessus tu peux mettre en illustration une photo. Donc c'est très sympa parce que si jamais tu t'écris des articles, bah tu peux déjà mettre ton visuel.
Ouais, je vois.
Tu vois de couverture ou un truc comme ça. Donc ça, c'est très intéressant. Après, tu peux mettre des catégories de couleurs aussi.
Ouais, t'as les petites couleurs, t'as ça, t'as pas mal de choses aussi. Tu peux faire des to-do, mettre des deadlines, etc. Partager avec les gens. Il y a toutes ces choses-là qui sont communes à tous les gestionnaires de projets, mais qui sont intéressantes aussi.
Tu peux synchro avec Google Drive, tout un tas de choses également. Mmh. Donc ça, c'est vrai que du coup, tu peux upload des PDF que tu as mis directement sur ton Drive si tu le mets à disposition de tes clients. C'est vrai que ça peut être bien quand tu veux directement, ben, au lieu de le charger directement dans Trello, tu peux juste mettre le lien vers le Google Drive et ton client, par exemple, peut aller chercher un PDF, un truc, n'importe quoi, une ressource.
Ouais,
tu vois.
Peux faire des connexions après.
Voilà. Mais c'est très riche et ça demande exploration, je trouve, Trello. Après, ce que j'aimais pas, moi, c'était le scroll horizontal.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est bizarre.
Voilà.
T'as pas le scroll horizontal, là, c'est que ça.
Bah ouais, et puis il n'y a pas d'autre manière de visualiser finalement les tâches qu'avec ces tableaux. Alors que sur d'autres. Alors que sur d'autres, en fait, tu peux rendre multiples la façon de voir tes tâches. Mais je t'en parlerai après sur autre chose.
Mais oui, tu pourras le citer si tu veux, celui que tu utilisais maintenant.
Ouais.
Du coup, voilà, pareil, Trello qui est à tester, qui est intéressant. Il y a beaucoup de monde qui l'utilise, donc c'est aussi intéressant parce qu'on va toujours utiliser aussi des outils en collaboration avec des gens avec qui on travaille, donc ça peut être intéressant. Il y en a un autre que j'aimerais citer qui s'appelle ClickUp, parce que c'est une app qui est très 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 complète. C'est pareil, c'est vraiment ça, aussi une app où il faut assez se plonger dedans pour en voir toutes les fonctionnalités. Mais que je sais que Quentin du coworking utilise. Moi, je ne l'ai pas utilisé, mais elle m'a l'air quand même pas mal bien. Elle est aussi, elle est aussi connectée avec plein d'applications. Ouais. C'est une application qui peut marcher en team. Et du coup, on peut se retrouver à plusieurs sur un même dashboard, des trucs comme ça. Et c'est une grosse application qui a plus de 1000 intégrations. Je suis en train de regarder sur leur site en même temps.
Oui.
Soit dans des intégrations de Dropbox, Drive, tous les trucs de cloud, de calendrier, Google Agenda, Outlook, etc. Et ça intègre aussi des messageries comme Slack, Zoom, il y a plein de choses. Et aussi des time trackers, donc comme Toggle, qui est un time tracker. Ça, c'est vraiment une grosse appli.
Et c'est cher, ça, c'est gratuit, c'est payant, comment ça se passe?
Je vais te dire ça, c'est gratuit pour 100 mégabits de stockage.
D'accord.
Et tâche illimitée. Bah ouais, en plus, après, je pense que c'est en termes de stuff. Enfin, Milanote, c'est pareil, je crois. Parce que comme tu viens ajouter du contenu sur soit Milanote, et je pense que ClickUp, c'est pareil, tu viens ajouter du contenu dessus, comme tu disais, tu peux ajouter des images, des trucs comme ça, tu viens mettre des trucs, ouais, du texte, etc. Au fur et à mesure, ça te prend du stockage. Donc en fait, t'es limité en termes de stockage, et après, quand tu veux plus de stockage, il va falloir payer.
C'est un peu comme...
C'est pas si cher, tu vois. C'est, enfin, c'est en général. Et je pense
comme un
que
cloud.
Mais la note, c'est pareil, c'est 8 euros par mois. Si tu payes mensuellement.
Tu le prends, toi, ou pas?
Et annuellement, c'est 5 euros.
T'as pris la version... T'as pris la version premium, toi, ou t'as pris la version gratuite?
Ouais, je suis sur premium, sur Milanote. Ouais.
D'accord. Oui, c'est intéressant de savoir un peu si les gens... si ça vaut le coup de payer à un moment donné. Enfin, tu vois, comment tu utilises toi aussi? Est-ce que tu utilises la version payante ou la version gratuite?
Moi, j'ai utilisé la version payante parce que c'est pareil, en fait, tu... Au bout d'un moment, t'es limité.
Ouais.
Et comme... en fait, ce qui est bien, c'est que tous ces outils-là sont gratuits la plupart du temps. C'est ce qui te permet de tester l'outil, d'aller voir justement tout le tréfonds des fonctionnalités, etc. et voir si l'outil te convient finalement.
Ouais.
Et après, dès que l'outil te convient, après tu payes. Et puis, c'est pas si cher. C'est, en général, c'est entre 5 et 8 euros par mois. Donc,
ouais, et puis après, tu t'es pas engagé, je pense. Donc du coup...
tu peux te désengager. Si tu payes au mois, tu peux te désengager.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je faisais. En gros, je prenais un mois et puis après tu vois quoi, ta vise.
Du coup voilà pour ClickUp, donc qui est pas mal, donc travailler à plusieurs avec compartimenté avec des tableaux de bord, espace de projet, client, etc. Donc vraiment à checker. Ensuite je voulais conseiller Inyo, que t'as testé aussi, que moi j'ai testé. C'est vrai que je l'utilise plus, et toi non plus, il me semble.
Mais je l'ai testé au tout début.
Je pense qu'il vaut le coup d'être mentionné.
J'ai testé
Parce
la
que
bêta.
C'est un petit projet français et, d'application française pour les freelances spécifiquement, et qui est très intéressant, mais qui est encore en développement, du coup peut-être pas optimal, mais qui est super intéressant. Ouais.
Toi tu l'as essayé en même temps que moi, non?
Oui, c'est ça, en fin d'année 2019.
Ouais, même l'été, je crois. Enfin, moi, je...
Oui, c'est ça. Ouais, j'ai commencé sur. Je l'ai testé plusieurs mois.
Ouais, je me rappelle.
Il est vraiment intéressant, je trouve, sur le suivi de projet. Il fait du suivi de projet avec... Et puis, force de ce truc-là, c'est qu'ils ont commencé à mettre en place une sorte d'assistant virtuel.
Oui.
Tu peux envoyer des mails tout seul en fonction de l'avancement de ton projet, comment tu remplis ton...
Moi, c'est ça qui m'a fait... C'est ça qui m'avait fait vraiment kiffer sur Inyo. C'est cet assistant virtuel, ou assistante d'ailleurs, virtuel, où tu peux donner un nom. Déjà,
en plus, tu peux lui donner un nom, etc. C'est vraiment bien fait.
Ouais,
tu peux lui permettre de communiquer avec tes clients et lui donner l'autorisation.
Oui.
Ou non, t'as le choix, tu peux faire. Ouais, c'est pas mal du tout.
Oui, c'est super sympa, et notamment pour envoyer les mails pour les factures, les relances, les choses comme ça. C'est vrai que c'est pas mal. Après, je le trouvais un peu limité. Alors à l'époque, parce que moi, depuis, est-ce que je peux pas vraiment être objectif, parce que je pense qu'ils ont dû développer à fond leur outil.
Mais moi, c'est pareil, je ne l'ai pas retesté depuis. Je pense qu'ils le développent au fur et à mesure, hein, tout le temps. Ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités.
Mais il est il est très joli esthétiquement, je trouve.
Oui,
ce que j'aimais bien, c'était la capacité pour Digno à mettre le planning avec toutes les tâches. Donc un planning un peu à la Google Agenda finalement, que je trouvais super par plage de to do. Et en même temps, un suivi détaillé par projet. Donc, c'est-à-dire que tu rentrais dans le projet, et dans un projet, tu nommais un projet, tu mettais une deadline et à l'intérieur, tu mettais toutes les tâches que tu voulais faire. Et tu pouvais ajouter des commentaires, des choses comme ça. Enfin, c'est assez bien. Je ne sais plus pourquoi j'avais arrêté, d'ailleurs.
Après, c'est qu'on est passé sur d'autres gestionnaires de projets, parce que le temps de tester celui-là, etc., puis voir qu'il ne nous convenait pas, qu'il n'était pas assez complet pour notre utilisation, on est passé sur autre chose. Mais ouais, je suis toujours un peu... Oui. Je regarde un peu ce qu'ils font, et puis je leur testerai sûrement à l'occasion. Mais...
Ouais, et je pense que ça pourrait être intéressant.
Qui est vraiment intéressant, et c'est pour dire aussi que c'est un petit logiciel français qui est...
Ouais, c'est français, du coup, c'est cool. On aime bien le Médite France.
Exactement. Voilà. Et du coup, après, le petit dernier que je voulais proposer, c'était Dubsado, que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Je t'en avais parlé aussi. C'est un dernier que j'ai découvert. Alors lui, il est, pour le coup, c'est très, très complet parce qu'il permet en fait de gérer vraiment de A à Z à partir du devis jusqu'à la facturation. Il fait aussi le logiciel de facturation. Et en fait, c'est une sorte de tout-en-un où à partir du moment où tu as le premier contact avec le client, tu peux même avoir les échanges mails dans l'application. Tu peux le connecter à ton email et avoir les échanges mails pour éviter d'aller rechercher dans tes mails tout le déroulé des plusieurs emails que vous êtes échangé avec le client. Ce qui est super intéressant, jusqu'à la facturation et qui prend même en charge le paiement. Si tu peux connecter avec Stripe ou des choses comme ça, tu peux faire du paiement par carte bancaire des clients via ce logiciel-là. Je trouve ça
c'est intéressant, assez cool, ça.
Donc c'est un logiciel qui est hyper complet, vraiment de A à Z, du premier contact jusqu'au paiement final, que tu peux faire payer tes clients par carte bleue. Donc je trouve ça vraiment bien.
Et combien coûte cette merveille?
Bonne question. Je crois qu'il est un peu plus cher que les autres. Je vais regarder ça, je vais te dire ça tout de suite. C'est un business management solution. Et
c'est un tout compris, quoi.
Client, des contacts, l'automatisation aussi est là, donc les paiements, etc. Et donc ce logiciel coûte, il est gratuit pour jusqu'à 3 clients. Ensuite, il coûte $35 par mois et $350 par an.
D'accord. Donc, après, si c'est vraiment très, très complet...
Ils sont dans l'entente des 8 euros à peu près. Donc, lui, il va coûter à peu près 30
euros. Mais attends. S'il fait logiciel de facturation, s'il gère un nombre incalculable de trucs, l'encaissement... Enfin, tu vois, là, il y a un moment donné, c'est normal.
Oui, c'est normal. C'est vrai qu'il est très, très complet. Et moi, je le trouve très, très bien. Alors, je l'ai testé, mais forcément une utilisation... Moi, j'en ai pas le besoin de tout ça et du coup, de ce besoin de pousser, tout ça.
Ouais.
Donc, je l'utilise.
Oui, c'est
pas,
clé en main, là. On est vraiment.
Mais je l'ai testé. Il est vraiment, vraiment complet, vraiment bien. Et il est bien foutu aussi. Donc, c'est très chouette. Il est agréable à utiliser, quoi.
Et peut-être que pour une personne qui débute, être accompagnée comme ça, de A à Z, ça peut être intéressant aussi.
Je pense que c'est soit intéressant, comme vous, justement, quand tu débutes, comme tu dis, ou aussi quand tu commences à avoir un certain nombre de projets ou de clients et que tu as envie vraiment de peut-être de
d'automatiser
de à la fois d'automatiser puis de recentraliser tout sur un même truc pour éviter que ce soit l'usine à gaz si tu as plein de de logiciels dans tous les sens, tu recentralises le tout sur un truc ou même que si tu veux l'utiliser à plusieurs du coup tu en avais un à proposer toi de logiciel, celui que tu utilises actuellement
Oui. Alors, j'utilise Asana. Je crois que ça se prononce
Asana,
comme ça.
Asana,
j'ai regardé.
Ok, je vois.
Mais moi aussi, je disais Asana et je me suis dit, mais j'ai l'impression que un S au milieu de deux A.
Ouais, mais c'est.
Ça doit se dire. Je sais pas. Du coup, voilà.
C'est vrai que j'ai déjà utilisé aussi, mais il y a longtemps que parce qu'il a évolué depuis.
Ouais, alors, pourquoi je l'utilise? Les origines, encore une fois. J'étais sur Trello avant, Et donc, il y avait ce souci d'horizontalité qui me dérangeait. Et le fait qu'on n'ait pas d'autres visibilités sur le planning des tâches. C'est-à-dire que j'avais envie d'avoir quelque chose qui me permette à la fois de voir mon planning, donc c'est-à-dire le déroulé de toutes mes tâches si je fais un projet sur 2 mois. Donc, ce que je fais sur Asana, c'est que je crée un projet.
Ouais.
Et ensuite, à l'intérieur, je vais faire la to-do complète avec les étapes. Donc ça, c'est génial. Dans les tickets, on va dire, de chaque étape de la to-do, tu peux faire comme sur Trello. Hein. Tu peux mettre des images.
Je pense que c'est commun à tous les essayants des problèmes.
Voilà. Je dirais que l'atout, et qui n'est pas des moindres, hein, c'est que quand tu coches que tu as fait une tâche, il y a une licorne avec un arc-en-ciel qui apparaît sur ton écran. Et je dois avouer que... ça.
Ouais, ça fait jouer dans la balance. Je comprends totalement. Ouais.
Je dirais que c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris presque. Je rigole, mais qu'à moitié. Hein. et du coup, tu cumules des points. En fait, il y a une sorte de jeu ludique. Ouais, il y a un truc ludique en fait derrière où tu cumules des points. Plus tu fais de tâches et plus tu cumules de points. Et en gros, tu as un suivi de tes points collectés. Voilà.
Donc je trouve ça très.
Tu me connais.
En tout cas, je pense que ça ressemble énormément à ClickUp. C'est un peu pareil, à mon avis.
Ouais.
Il y a énormément d'intégration avec plein d'applications tierces comme Google Agenda, Google Machin Drive, tout ce que tu veux, Dropbox et j'en passe. Donc je pense que c'est vraiment très très proche de ClickUp.
Écoute, pourquoi pas, hein. Et en fait, tu as 3 manières d'avoir une visibilité en fait sur tes tâches. C'est une en mode planning, donc c'est-à-dire avec effectivement une sorte d'agenda, une grille d'agenda, et chaque jour, un peu comme sur Inyo. Tu vois, tu as aujourd'hui je dois faire ça, aujourd'hui je dois faire ça, la deadline est ici, tu vois, telle date.
Ouais.
Tu as en forme de liste, donc ça c'est le classique. Et tu as également sous forme de tableau, comme sur Trello. Donc ça cumule, ça cumule plusieurs affichages.
D'une vue à l'autre
Oui, ou pas. C'est ça.
Ouais.
Tu peux switcher d'une vue à l'autre. En fait, tu as 3 onglets, tu as l'onglet liste, l'onglet calendrier et l'onglet tableau, il me semble. Bien. Et en gros, tu peux switcher. Bien entendu, tu peux inviter des clients à participer à ton projet et leur assigner des tâches, du coup. Donc ça, c'est très, très cool. Moi, c'est ce que je suis en train de faire là avec 2 clients. Donc, je teste. Pour le moment, ça a l'air d'être bien reçu. À voir après sur la durée si vraiment ça plaît aux clients ou si c'est juste accessoire et que ça sert à pas à grand chose, mais j'essaie de vraiment faire participer mes clients et que ça devienne presque un jeu, tu vois, avec le.
Bah, s'il y a des licornes, hein.
Avec la. Ouais, bah exactement, avec la to-do et les faire eux-mêmes cocher leurs cases, etc., pour vraiment avoir une sensation d'équipe et de collaboration à plusieurs, pas juste chacun de son côté, et voilà.
D'accord. Bon, bah c'est top, ouais, putain. Ben, je regarderai ça plus près.
C'est cool.
Mais du coup, pour les tarifs...
Ah, mais à chaque fois, je te convainc de...
Ça se teste gratuitement. Et...
Oui, alors là, moi, je suis sur la version gratuite pour le moment.
Ce que tu disais.
Mais je vais prendre la version premium parce qu'il y a quand même vachement d'avantages, notamment au niveau des permissions, c'est-à-dire les permissions que tu donnes à tes clients si jamais tu invites des gens. Ouais, ça c'est dans le premium. Si jamais tu veux dans tes listes pouvoir mettre des colonnes, tu sais, personnalisées, parce que là en gros tu as juste la colonne assigner une tâche, quel jour, mais si tu veux rajouter des paramètres genre des couleurs ou des trucs comme ça, qui est quand même très pratique, on va pas se mentir. Par exemple, imaginons statut de la tâche. Moi, j'adore cette colonne-là, c'est-à-dire soit mettre rouge parce que c'est pas commencé, orange pour en cours et vert quand c'est fini, mais là, tu la coches de toute façon. Mais te dire, juste marquer orange et me dire que je suis en train de faire une tâche me fait du bien psychologiquement. Voilà. Donc, donc voilà.
Du coup, il est gratuit. Donc, la version premium est à 11 € par mois en facturation annuelle ou 13,50 € par mois en facturation mensuelle.
D'accord.
Voilà pour les tips. Mais ouais, putain, je regarderai ça. C'est vrai que j'avais utilisé moi il y a longtemps parce que justement, j'ai bossé pour, je crois, une sorte de, ouais, comme une agence qui faisait des sites internet et qui passait par du coup des graphistes freelance et qui en fait gérait tous les projets sur Asana. Et nous, on venait en fait poser nos maquettes sur Asana, je crois. C'était il y a très
D'accord.
longtemps.
OK.
Mais du coup, ouais, c'était au début quand j'ai commencé, donc c'était il y a un bon petit moment. Donc je pense que
Ouais,
Asana a
bah.
bien évolué depuis. Donc je me repencherai dessus. Bah voilà pour les petites toutes les petites ressources, c'est quand même pas mal, mais globalement une ressource de logiciel de gestion de projet. Donc voilà, et puis bah du coup on va terminer quand même ce podcast sur des petites recommandations. Donc j'avais un compte Insta et une vidéo YouTube à recommander. Et je voulais recommander, enfin faire ces recommandations sous le prisme un peu du. De l'impression. Et donc, le compte
D'accord.
Insta que je recommande, c'est Atelier Bulk, donc tout attaché, Atelier Bulk, je sais pas si t'es allé voir.
Du tout.
C'est un imprimeur qui est basé sur Bordeaux et qui font de l'impression un peu traditionnelle également, avec des vieilles machines presse, etc.
Je crois que tu m'en avais parlé de
Et
ça.
franchement, leur Instagram, il fait un peu baver parce qu'ils ont des super papiers, des super impressions. Ils font vachement d'impressions assez spécifiques avec du gaufrage, des vernis, des
Ah, je
trucs
suis
dorés
dessus.
et tout. C'est un super imprimeur.
Waouh.
Enfin, c'est hyper inspirant. Et je pense qu'en tant que graphiste, il faut vraiment s'inspirer aussi de ce qui se fait dans l'impression
Ah ouais, mais
en termes de
tellement, mais attends,
support.
mais c'est
Ouais,
magnifique.
c'est magnifique ce qu'ils font.
Oh là là, rien que pour la découverte, franchement, ça vaut le coup d'y aller.
Ouais, bah voilà, t'es conquise. Non, mais Atelier Bulk, ouais, sur Instagram, ils sont vraiment là. Leurs créations font baver. C'est vraiment chouette. Et ils sont sur Bordeaux, donc
Ah
c'est dans la
ouais.
Mini-France. Donc
Yes.
c'est super.
Merci, merci
Avec plaisir. Et du coup,
beaucoup.
en vidéo YouTube, j'ai une vidéo sur la chaîne de Jukebox Print, Jukebox Print. Donc c'est pareil, c'est un imprimeur, je crois, qui fait des vidéos un peu de leur process, de comment ils font certaines impressions, donc sur YouTube. Et c'est une vidéo qui s'appelle Let the Praise Business Card Printing avec 5 pantalons. Et ça dure 27 minutes, donc c'est quand même assez long, mais il te montre tout le process de création de carte de visite avec des couleurs Pantone où ils vont mélanger donc les nuances pour arriver à la bonne couleur Pantone et faire de l'impression donc traditionnelle
Ça a
avec
l'air
les vieilles
sexy, hein.
machines qui calibrent, etc. C'est hyper passionnant, je trouve, de regarder ça.
Ah ouais. Bah là, je regarde vite fait la timeline de la vidéo. Et franchement, ça a l'air trop
C'est
cool.
trop
C'est
bien. Moi,
sexy,
j'adore
hein,
quand tu vois un peu le
les
process
trucs.
derrière, tu sais, de comment s'imprimer. Puis en plus, un
Grave.
peu de manière traditionnelle, là où il va faire tous ces calages papier manuellement et tout ça. Enfin, je trouve ça assez fou de comprendre comment ça marche derrière.
Je
C'est
trouve que
fou.
c'est toujours intéressant de savoir un petit peu les origines
Ouais.
de comment c'est fait parce que ça te permet aussi de mieux préparer ton travail et ce que tu vois, ce que tu vas
Ah, mais
proposer finalement à
tellement.
l'impression. Donc,
Tellement, tellement. Faut apprendre tout ça
voilà.
exactement. Donc voilà les petites recos du jour du podcast. Donc
Ah
les
bah
contenus
c'est...
d'impression.
Bravo.
Voilà. Eh bien j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à retrouver Blandine sur son site internet directement, donc blandine.com, blandeen.com. Vous allez pouvoir retrouver le lien du coworking virtuel si vous voulez venir nous rejoindre pour discuter un peu tous les jours et se donner un peu des tips. On est pas mal, c'est une petite communauté de graphistes. On se donne des tips, on s'entraide et puis surtout on rigole beaucoup. Également, Blandine a une ressource gratuite sur son site pour faire ses devis très importants. Et si vous voulez checker sa formation qui est disponible sur les droits d'auteur, n'hésitez pas à aller checker ça. C'est un petit bijou. Et puis, pour ma part, vous pouvez retrouver le site Graphismap, le tout nouveau site qui est sorti en septembre, donc sur graphisme.app. Donc c'est un site où je répertorie énormément de ressources. Il y a une page de ressources quotidiennes avec plus de 70 ressources gratuites. Donc c'est des sites que je compile tout sur une page, des banques d'images, des icônes, des typos, etc., etc. Et également, ce que j'ai fait de nouveau, c'est que vous avez une page sur toutes les ressources que j'ai envoyées en newsletter jusqu'à maintenant. Donc j'en suis à la 70e newsletter à peu près, donc c'est pareil, il y a plus de 70 ressources que j'envoie dans mes newsletters. J'envoie une ressource par semaine gratuite dans ma newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et également, du coup, vous allez avoir un article sur ce podcast pour retrouver tous les liens dont on parle dans ce podcast. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, et puis on se retrouve sur Instagram et dans un prochain épisode du podcast. À bientôt, ciao.